France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings. Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all of you girls are bitches?
I guess so.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
Itana. Quand même, moi, je suis sûr que c'est un peu plus difficile. Il y a des choses qui sont en train
de se faire. Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back, one in his stomach. Nobody important.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, 2014, une année musicale et cinématographique. Bonsoir. Cela n'aura sans doute échappé à personne. L'année 2014 se termine. C'est donc l'heure des bilans et nous n'échapperons pas à cet exercice ludique et réflexif. Pour parcourir cette année riche en bandes originales excitantes, j'ai convié deux complices de Cinéma Song. J'ai nommé Charles-Pierre Vallière, chroniqueur dans l'émission En Piste tous les mercredis matins sur France Musique, et Benoît Basirico, animateur du Cinésique et accessoirement chroniqueur mensuel dans Cinéma Song. Ensemble, nous évoquerons donc les musiques marquantes de l'année. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. En attendant ce débriefing à 3, mon actualité c'est d'abord ceci. Et oui, je n'ai pas résisté à vous mettre un chant de Noël pour démarrer cette émission du Cinéma Song du 18 décembre ce soir. Donc c'est la dernière avant Noël justement, puisque la prochaine sera le 25 au soir. Et pourquoi un chant de Noël? Ça a quand même un petit rapport avec le cinéma. En fait, ce morceau donc qui est un des classiques des chansons de Noël, il y en a un certain nombre d'autres, Have Yourself a Merry Little Christmas, figure dans un album qui s'appelle Molto Groovy Christmas, produit par Roman Coppola. C'est la raison pour laquelle se trouve aussi ce morceau morceaux dans cette émission, avec Alessandro Casella et le multi-instrumentiste Carlo Padighe, tous deux italiens. Roman Coppola, lui, il est italo-américain, c'est bien sûr le fils de Francis et le frère de Sofia. Et alors cet album, donc très marrant, qui s'appelle Molto Groovy Christmas et qui est essentiellement disponible sur le site www.cdbaby.com. On peut le trouver aussi en vinyle dans certaines boutiques un peu branchées, on va dire. Et bien cet album, donc, c'est un ensemble de réinterprétations de chants de Noël. Évidemment, l'album de Noël, c'est un grand classique chez les Américains. Il y en a énormément, tout le monde a sacrifié à ça. Donc on retrouvera dans cet album White Christmas, Jingle Bells, The Little Drummer Boy et Silent Night, donc vraiment les classiques, plus que classiques, mais revisités donc dans un son qui rappelle les BO italiennes des années 60-70. C'est pour ça que ça s'appelle Molto Groovy Christmas. Et par exemple, le morceau que vous avez pu entendre, eh bien, il est directement inspiré par la voix de Edda De Lorso, qui était la voix des musiques de Morricone à la fin des années 60 et début des années 70. On retrouvait aussi l'influence de gens comme Piero Piccioni ou Armando Trovajoli, qui sont des musiciens cultes de cette époque. Et voilà, donc tout ça est réinterprété de manière très marrante, avec des aspects parfois bossa nova, des aspects un peu électroniques par moments également. Enfin voilà, c'est une sorte de cocktail très ludique et très détonnant que je vous recommande si vous avez envie de passer un moment de Noël un petit peu décalé, et c'est parfois bienvenu. Alors on va en venir à des choses entre guillemets plus sérieuses, avec d'abord un film formidable qui sort lui le 24 décembre, justement mercredi prochain, un docu-fiction on pourrait dire, une sorte de portrait de Nick Cave qui s'appelle 20 000 jours sur Terre, signé par Ian Forsythe et Jen Pollard, où l'on voit Nick Cave, on passe une journée avec Nick Cave, mais cette journée bien évidemment est tout à fait mise en scène, puisqu'on on le retrouve aux côtés de certains de ses complices musicaux, notamment Warren Ellis, avec lequel d'ailleurs il pratique régulièrement la musique de film. On le voit face à une sorte de psy dont on ne sait pas si c'est son vrai psy ou quelqu'un ou un acteur qui joue le rôle, mais on peut supposer que c'est quand même un acteur. On le voit aussi aux côtés de Kylie Minogue, enfin on le voit voilà, dans différentes circonstances, et c'est un film vraiment extrêmement réussi. C'est un genre difficile, le film sur un artiste rock ou sur un musicien. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma et de la musique, et là on est vraiment sur un objet très original, très élégant, très sophistiqué, et en même temps qui dit beaucoup de choses sur le vieillissement. Nick Cave s'interroge beaucoup sur le temps et sur voilà, l'évolution de sa musique, sur ses origines, enfin voilà. Et c'est très passionnant, donc je vous propose d'écouter un extrait musical de ce film qui sort donc le 24 décembre.
Was?
Yeah?
You're starting it off with the back
what
and
about?
Forth, right?
Yeah.
Like, am I doing that? Oh, I was wrong.
Yeah, you are doing that.
When do you come in? When does Marty come in?
After your little thing and it goes...
I was riding, I was riding over the hills. Sun, the sun, the sun, it was rising up over the hills. Gets you right down to your soul. You've
un extrait musical du film qui sort donc le mercredi prochain, le 24 décembre, le 20 000 jours sur Terre, donc de Ian Forsythe et Jen Pollard, donc un film autour de Nick Cave, avec, autour et sur Nick Cave, si on peut dire. En tout cas, c'est, on le suit donc pendant une journée évidemment assez fictionnelle, mais qui quand même accueille le documentaire, et on voit d'ailleurs des morceaux, enfin des moments de l'enregistrement du dernier album, de l'album précédent de Nick Cave sorti l'année dernière, Push the Sky Away. C'est d'ailleurs un extrait de cet album qu'on écoutait à l'instant. Voilà, c'est un film vraiment formidable et je vous le recommande chaudement. Et alors, on va rester dans une actualité donc assez riche ce soir avant de passer au bilan donc de l'année avec Charles-Pierre Vallière et Benoît Bazirico. C'est l'heure des cadeaux, bien sûr. On a parlé de Noël. Et je vous propose deux magnifiques coffrets si vous aimez les burlesques, si vous aimez le cinéma muet. D'abord, un coffret Charlie Chaplin qui regroupe tous les films qu'il a fait pour la firme Essanay autour de l'année 1915. Ça fait suite d'ailleurs à deux autres coffrets qui avaient été publiés les années précédentes pour les compagnies Keystone et Mutual. Mutual d'ailleurs, c'était après Essanay. Et c'est chez Arte, avec la collaboration extrêmement précieuse de Lobster Film, c'est-à-dire Serge Bomberg, qu'on avait d'ailleurs interviewé l'an dernier sur le sujet du précédent coffret. Et évidemment, comme toujours, c'est des magnifiques copies. On redécouvre toute l'énergie du Chaplin des débuts, qui va donner des très grands longs métrages ensuite, mais tout est déjà là, en particulier dans un film qui s'appelle Charlot Boxer, je prends au hasard un de ses courts-métrages, qui est la matrice du grand combat de boxe qu'on retrouvera dans Les Lumières de la Ville. Et puis un autre coffret qui sort, lui, chez Carlotta, c'est celui donc de Harold Lloyd. Alors Harold Lloyd est un petit peu moins connu de Chaplin, mais c'est quand même un des 3 ou 4 très grands burlesques de l'époque, avec Buster Keaton et Harry Langdon. Et là, c'est peut-être plus rare, parce qu'on voit moins souvent les films de Harold Lloyd. Alors il y a les films les plus connus, comme Monte là-dessus, on voit Harold Lloyd accroché à une pendule alors qu'il gravit difficilement la façade d'un immeuble. On le voit aussi dans Vive le sport, où précisément il essaye de devenir un champion de sport à l'université. Puis il y a tout un tas d'autres courts-métrages, d'autres films plus longs, des films parlants, puisque Harold Lloyd a fait aussi des films parlants. On le voit aussi présenter ses films, enfin en tout cas un de ses films. Et tout ça évidemment avec des copies absolument magnifiques et des musiques donc, qui sont tout à fait adaptées à ce type de film, qui ont été signées pour un certain nombre d'entre elles, pour Chaplin comme pour Harold Lloyd, par Robert Israel, qui est un des musiciens les plus spécialistes des musiques de films muets. Je vous propose d'en écouter deux extraits qui s'enchaînent et qui paraissent presque être extraits du même film au bout du compte.
Thank you.
La musique que vous entendez, c'est la musique de Charlot Boxer, donc un des courts-métrages qui figure dans le magnifique coffret donc chez Arte, Lobster Film, coffret Charles Chaplin, The SNA Comedies 1915. Donc la musique, elle est signée Robert Israel, et puis elle était également signée Robert Israel juste avant pour la musique, cette fois-ci d'un film de Harold Lloyd, qui s'appelle Vive le sport en français, et qui fait partie des films les plus connus de Harold Lloyd. Il y en a des beaucoup moins connus dans ce énorme coffret de 9 DVD, mais ça vaut vraiment le coup, avec des magnifiques copies, je tiens à le signaler, parce que maintenant, avec les nouvelles normes numériques, on arrive à des restaurations qui sont assez incroyables, assez exceptionnelles en 4K. Bon, voilà, c'est des normes sur les techniques. Et voilà, et un travail sonore et musical très réussi, enfin musical en tout cas, sur ces courts-métrages qui, et longs-métrages parfois, qui peuvent réunir, comme on dit, petits et grands, donc des idées de cadeaux qui sont absolument remarquables. Une autre idée de cadeau et un autre coffret, puisqu'on est dans l'avant-Noël, c'est 100 ans de jazz, un documentaire de Ken Burns en 12 épisodes, en 12 heures. Donc là, c'est l'histoire du jazz racontée de A à Z, avec une assez longue période, vraiment sur les années 10-20, c'est-à-dire vraiment sur les débuts. C'est réalisé par Ken Burns, qui est un grand documentariste qui a fait quelques sagas comme The Civil War ou The War. Donc on peut, pour les amateurs de jazz et pour les néophytes, c'est vraiment une mine absolument formidable, avec beaucoup, beaucoup de documents rares, des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et puis voilà, depuis les origines du jazz jusqu'à la modernité, et en passant évidemment par des figures incontournables comme Charlie Parker, Duke Ellington, Armstrong, Dizzy Gillespie et beaucoup d'autres. C'est vraiment une pièce assez formidable, avec un cinquième disque où on retrouve des séquences filmées et des musiciens qui chantent ou qui interprètent des standards de jazz. Alors ça va de Fats Waller à Louis Armstrong, en passant par Count Basie, Louis Jordan et quelques autres. Le seul défaut peut-être de cette série documentaire sur l'histoire du jazz, c'est peut-être d'être trop ethnocentré, c'est-à-dire c'est essentiellement l'histoire du jazz américain. Alors évidemment, c'est le grand fleuve de l'histoire du jazz, mais on sait aussi que dans beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, il y a eu quand même des traditions, enfin des musiciens de jazz absolument passionnants, ne serait-ce qu'en France, mais également en Pologne, en Angleterre, en Allemagne et partout en Europe. Donc voilà, abstraction faite de ce petit reproche, c'est un formidable coffret, et je vous propose d'écouter un de mes musiciens favoris, c'est peut-être le cas pour vous aussi, Nat King Cole, dans un morceau de 1946.
Telephone Jenny, and I just got 4 cents to my name. Got a penny, penny, can't you guess I haven't any? And I got to call that solid dame. I went down to the bank, but they had none to spare. I looked up on the shelf, but the cupboard was bare. Got a penny, penny, got a telephone genie, and I just got 4 cents to my name. Chef, but the cupboard was bare. Got a penny, penny, got a telephone genie, and I just got 4 cents to my name. one says to my name. Ain't that a doggone shame that I haven't got but 4 cents to my name.
Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça me met toujours d'excellente humeur d'écouter Nat King Cole, puisque c'était Nat King Cole au piano et au chant, et en trio interprétant I Got a Penny en 1946. C'est un des formidables documents qui figure donc dans ce coffret de 5 DVD. Jazz, 100 ans de légende, donc une série documentaire de Ken Burns qui a paru le 2 décembre donc dernier et qui est évidemment en vente pour les fêtes. Et c'est très bien ainsi parce que c'est vraiment un document tout à fait passionnant. Alors on va terminer cette séquence d'actualité un peu Noël avec 2 films d'animation et 2 musiques de films d'animation qui ont illuminé la fin de cette année. Celle de Philippe Rombi pour Astérix, le domaine des dieux. Alors le film est déjà sorti depuis quelques semaines. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, surtout si vous avez des enfants. Mais le CD est sorti un tout petit peu en décalé chez Crystal Records et donc j'avais envie de vous faire écouter cette musique de, enfin un extrait de cette musique de Philippe Rombi qui est un peu un exercice de style à la John Williams ou ce genre de musicien, mais qui en même temps est très réussi dans le genre voilà qu'on lui a demandé de pratiquer et qu'il aime beaucoup de toute façon parce que Philippe Rombi est un grand amateur et un grand connaisseur de l'histoire de la musique de film. Et puis un film que je tiens vraiment pour une sorte de chef-d'œuvre du cinéma d'animation avec une musique magnifique de Bruno Coulet, c'est Le Chant de la Mer, donc Song of the Sea, sorti la semaine dernière dans une combinaison de salles un petit peu plus modeste qu'Astérix. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, même si Astérix est un bon film. Et c'est un film extrêmement poétique qui tourne autour de la question du deuil, mais d'une manière un peu sous la forme d'un conte, avec une musique de Bruno Coulet, je disais, très réussie et extrêmement bien intégrée dans ce film de Tom Moore, ils avaient déjà travaillé ensemble d'ailleurs, Tom Moore et Bruno Coulet, pour le film précédent qui s'appelait le nom m'échappe de ce film, et vous pourrez le retrouver sur les bons sites internet. Et en tout cas, je vous propose d'écouter un extrait de chacune des deux musiques qui, comme vous allez pouvoir l'entendre, sont assez différentes l'une de l'autre. Et ça nous amène un peu d'ailleurs vers le bilan de l'année, puisque ces deux compositeurs font partie, bien évidemment, des compositeurs qui ont marqué cette année. Thank you. à l'instant Help, un extrait de la bande originale de Song of the Sea, le chant de la mer, musique signée Bruno Coulet, et auparavant Chasse aux sangliers et découverte du chantier secret. C'est de la BO de Astérix, le domaine des dieux, qui est paru chez Crystal Records, et c'est, elle est signée Philippe Rombie, deux esthétiques, on va dire, assez différentes, l'une peut-être un peu plus extravertie et l'autre un peu plus intérieure, plus intime, mais ça correspond également évidemment à la tonalité des deux films. J'ai retrouvé le nom du film que Tom Moore, l'auteur du chant de la mer, avait signé auparavant et dont la musique était déjà signée Bruno Coulet, c'était Brendan et le secret de Kells, merci au Bruno Rioux-Maillard. Et voilà, donc ces deux films à voir et deux BO à écouter, et on aurait pu les faire figurer dans le bilan de l'année, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure en compagnie de mes deux invités qui sont déjà dans le studio, Benoît Basirico et Charles-Pierre Vallière, qu'on va retrouver après avoir entendu la première musique de notre bilan. Cette musique très inquiétante, très minimale et assez dissonante, elle est signée Mika Levy pour le film de Jonathan Glazer, Under the Skin. On commence par un morceau, le bilan de l'année, par un morceau qui s'appelle Death. Donc c'est tout un programme. Donc Charles-Pierre Vallière et Benoît Basirico, je le disais, sont là à ma droite et à ma gauche pour débattre.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Charles-Pierre, bonsoir Benoît. Pour débattre un peu de ce bilan de l'année, on a commencé par une bande originale qui fait un peu l'unanimité entre nous, et pas seulement entre nous, puisque pour une fois, c'est assez rare pour le noter, Libération, Les Cahiers du cinéma, Les Inrecuptibles ont écrit quelque chose sur cette bande originale, et c'est assez rare qu'on écrive quelque chose sur les bandes originales dans les magazines de cinéma ou dans les journaux, disons, sérieux. Et voilà, donc ça prouve qu'on est vraiment face à un ovni à la fois cinématographique et musical, n'est-ce pas Charles-Pierre?
Oui, moi j'avais découvert la bande originale avant de voir le film. Déjà c'était assez frappant, on n'a quand même pas l'habitude...
Je m'en souviens parce que vous l'aviez passé dans Cinéma sans
On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de sonorité, déjà. Et effectivement, quand on voit le film, c'est une musique qui est directement attachée à ce film, qui est complètement, qui s'incarne complètement dedans, qui est indissociable. Quand on entend la musique maintenant, enfin, on voit forcément ces images. Et la compositrice, donc, qui est assez jeune, hein, Mika Levy, qui a 27 ans, qui a justement, voilà, composé une bande originale qui est assez proche, alors, de ce qu'elle a fait pour ses études, parce que c'est une musicologue, enfin, elle fait des études de musicologie, elle est fascinée par Chelsea, par Cage, par Xenakis.
Une solide culture de musique contemporaine.
Exactement. Pourtant, pour la scène, elle compose plutôt de la musique pop électro. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que justement, comment Jonathan Glazer utilise cette musique de manière tout à fait intéressante, parce qu'il y a un dépouillement visuel dans les scènes où on entend cette musique, et le spectateur projette justement tout. Alors, le caractère de fantasme pulsionnel, érotique et mortel. Bon, j'en dis pas plus sur le film, mais c'est vraiment ça.
Une sorte de film de science-fiction, enfin, très minimal, mais
c'est
de façon.
De par le dépouillement visuel, c'est grâce à cela que cette musique est rendue aussi efficace et aussi oppressante dans un film comme celui-ci.
Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que c'est un des films où la musique et l'image font vraiment corps, n'est-ce pas, Benoît?
Tout à fait. Alors, Under the Skin, pour ceux qui ne voient pas de quel film on parle, il y a Scarlett Johansson dans le plus simple appareil. C'est un peu l'argument marketing du film, puisque derrière, il y a un film quand même assez radical, audacieux. Je pense que s'il a pu faire un peu d'entrée, c'est grâce à cet argument premier. C'est un film d'horreur d'abord, et aussi un film...
Mais pas complètement traditionnel malgré tout.
Et aussi expérimental, voilà. Et la musique est également dans cette dichotomie, à la fois musique contemporaine et aussi musique très terrifiante. Donc, la jeune compositrice anglaise avait 24 ans quand elle a composé cette musique. Il faut rappeler que Jonathan Glazer, le réalisateur, avait fait appel au Frenchie Alexandre Desplat pour sa BO précédente, Burst. C'est assez audacieux pour son...
C'était un petit moment, parce que c'était en 2006. Donc, il fait pas beaucoup de films, Jonathan Glazer, et c'est bien dommage, d'ailleurs.
Et donc, c'est audacieux, je pense, de faire appel à cette jeune compositrice. Et cette audace est récompensée, puisque cette BO de Mika Levy a remporté l'European Film Awards 2014. Et je pense qu'il va se trouver en tête aux Oscars, on verra.
Surtout qu'apparemment...
Ça serait un choix assez audacieux, en tout cas, pour les Oscars.
Apparemment, en plus, Glazer a eu la judicieuse idée de la laisser faire, vraiment, parce qu'il il a juste discuté avec elle, et la seule chose que, justement, retenait Mika Levy, c'était qu'il cherchait quelque chose d'une musique d'un autre monde, mais il lui a laissé vraiment carte blanche, en fait, pour faire la musique.
On peut dire qu'elle est quasi co-metteur en scène du film, d'ailleurs, ce qui est assez rare, on pourrait dire ça parfois d'autres films, enfin là, c'est vraiment le cas. Alors, pour poursuivre un peu après cette BO, on va dire, événement, et ce film qui a marqué un peu l'année. On a choisi comme ça des bandes originales qui pourraient s'apparenter d'une certaine façon, notamment celle de Danny Bensi et Sander Joyans pour le film Enemy de Denis Villeneuve. On peut peut-être en dire un mot avant d'en écouter un extrait. Je sais pas qui veut peut-être.
Je trouve que la programmation est assez logique puisque musicalement l'enchaînement est assez logique puisque musicalement je trouve que ça se rapproche de cette expérimentation un peu dissonante de Mika Levy dans Under the Skin, à la différence près que là c'est un peu plus orchestral et ça se rapproche davantage de Bernard Herrmann. Dans cette spirale, ce personnage justement dans Enemy de Denis Villeneuve, incarné donc par cet acteur qui est double.
Jack Gyllenhaal
qui en fait joue deux rôles à la fois puisque c'est la thématique du double. Et donc Bernard Herrmann l'a illustré dans Vertigo et c'est le cas également dans Enemy, mise en musique par Danny Bensi et Sander Joyans qui forment le duo musical Stenfer Charles.
Qu'on avait déjà entendu d'ailleurs dans un film que j'aime beaucoup, dont le titre m'échappe à l'instant, décidément, Martha, c'est la soirée. Martha Marcy et quelques autres. Si je puis dire.
Martha Marcy et Marlène, je crois.
Voilà, c'est ça, absolument. Qui était aussi un film passionnant, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et là, moi, je suis assez d'accord avec Benoît. Il y a une seule chose, c'est vrai, c'est que la musique, tout un peu, c'est pas aussi bien fait, si vous voulez, que Mika Levy.
Le film est un petit peu moins fort, malgré tout.
Il y a ça, mais ce qu'il y a, c'est que malgré tout, la musique a un rôle particulier, c'est parce qu'il y a justement à la fois le côté routinier qui est présent dans les images, notamment au début du film, et puis justement, la musique, elle, est particulièrement oppressante. Et ça, c'est assez dérangeant d'avoir cette différence comme ça, entre ce que l'on voit, qui a priori est tout à fait anodin, et cette musique qui est particulièrement dérangeante. C'est ce qui crée un climat d'instabilité dans le film, et ce, dès le début. Ça, je dois dire que on le retrouve pas tout le temps, et ça fonctionne très très bien. Alors par contre, c'est pas forcément une musique qu'on écoute chez soi tranquillement dans son salon. Enfin, en tout cas, moi je le fais pas.
On va voir. extrait de la bande originale de Gone Girl, donc The Way He Looks At Me, signé Trent Reznor et Atticus Ross, et auparavant un autre duo, Danny Bensi et Sander Joyans, pour l'extrait de la bande originale de The Enemy, The Dream. Alors on est dans des bandes originales assez expérimentales. Je rassure les amateurs de musique orchestrale, ça viendra un tout petit peu plus tard dans cette émission bilan. Alors Trent Reznor, on a parlé donc de Danny Bensi et Sander Joyans avant la diffusion des morceaux. Parlons un peu de ce film de David Fincher, Gone Girl, que là du coup tout le monde a dû voir parmi nos auditeurs, parce que c'est quand même un des gros succès de l'année, avec Trent Reznor et Atticus Ross, pour la troisième fois depuis les deux films précédents, donc de David Fincher. Benoît,
troisième BO de ce bilan, troisième thriller on peut dire, et troisième BO plutôt dissonante et angoissante. On verra plus tard peut-être des choses plus légères, mais c'est vrai qu'il y a une adéquation entre le côté horrifique thriller et le côté musique anxiogène. David Fincher retrouve là Trent Reznor et Atticus Ross là, une troisième fois, après l'Oscar de The Social Network pour la musique et Millennium. Il va peut-être battre dans cette collaboration sa rencontre avec Howard Shore sur Seven.
Trois films aussi, je crois. Oui.
Exactement, donc peut-être que le prochain va être aussi Trent Reznor. En tout cas, Trent Reznor vient d'un groupe Nine Inch Nails. C'était un peu le seul d'ailleurs qui opérait au niveau musical et la composition dans ce groupe. Et on ressent un peu une logique entre ce qu'il faisait dans ses albums et ce qu'il fait au cinéma. C'est assez rare hein, qu'un les Daft Punk, par exemple, quand ils font de la musique de film, Tron, on ne retrouve pas réellement la musique de leurs albums.
Ils ont essayé de copier un peu leur modèle sur le plan orchestral.
Trent Reznor, je trouve, est quand même assez logique. Et surtout dans ses albums, il était assez proche quand même d'une matière cinématographique et sonore.
Ouais, absolument, oui, surtout dans la dernière partie de sa carrière, hein, à partir des années 2000 surtout, parce que c'est vrai, quand il est de l'indus dans les années 90, c'était pas tout à fait ça, même si Fincher...
À cette époque-là, on l'avait entendu chez David Lynch, dans Lost Highway notamment.
Absolument, et puis surtout, on entendait quand même, malgré tout, Fincher avait employé un de ses morceaux dans Seven. Mais ce qui est vraiment surprenant, alors moi, en ce qui me concerne, Gone Girl, j'ai pas été tellement fan du film, mais la BO reste...
Moi non plus,
mais la BO
contrairement
reste...
à Benoît qui aime beaucoup le film.
Mais la BO reste excellente, si ce n'est que effectivement par rapport à The Social Network et Millennium surtout, bon, on a quand même une BO avec énormément de durée de plage à écouter et il y a des irrégularités, enfin dans le sens où parfois c'est un peu moins bon quand même, un peu plus conventionnel on va dire. Bon, c'est quand même Reznor et Atticus Ross, ça reste très très bon, mais disons que c'est pas aussi homogène que ça pouvait être le cas sur The Social Network ou donc Millennium.
C'est peut-être aussi une BO finalement moins surprenante que les deux précédentes, parce qu'on commence à s'y habituer. Bon, le film, effectivement, on peut l'aimer ou l'aimer un peu moins, comme c'est notre cas, Charles-Pierre et moi. Mais en même temps, oui, je pense surtout qu'il y a moins d'effets de surprise, ce qui ne veut pas dire que la collaboration entre Fincher et Trent Reznor et Atticus Ross ne reste pas passionnante, parce que ça reste quand même très largement au-dessus du lot par rapport à ce qu'on peut voir et entendre tout au long d'une année cinématographique. Mais c'est vrai, voilà, il y a peut-être moins, en tout cas pour ce qui me concerne, moins d'enthousiasme, en tout cas que sur Millennium en particulier, que je trouvais personnellement le travail musical le plus réussi des trois films de Fincher.
Et je trouve dans ces triptyques là de Trent Reznor avec David Fincher, il y a une évolution au départ dans The Social Network. On est vraiment dans la musique industrielle et là pointe du nez dans ce Gone Girl ce qu'on peut entendre par musique de film. Par moment, il y a une romance par exemple dans le film, mais une romance qui va tourner au vinaigre.
On l'a pas entendu effectivement dans l'extrait que j'ai choisi.
Voilà. Mais je trouve que là pointe du nez la musique de film. Trent Reznor va faire une musique pour illustrer un sentiment et une perversité du personnage.
Alors c'est pour là justement, c'est peut-être là où j'ai un point de désaccord. C'est que pour moi, c'est une faille. Il va à la facilité à ce moment-là, Trent Reznor. Chose qu'il ne faisait pas dans d'autres films, et en tout cas pour The Social Network, c'est Millennium. Là, pour moi, c'est quand il va à la facilité. Il pourrait se permettre de faire autre chose, en tout cas quelque chose de plus innovant. Greenwood, par exemple, Johnny Greenwood ne pratique pas ce genre de...
C'est autre chose.
Il ne va pas se réfugier dans une forme d'ambiance qui est relativement conventionnelle.
Disons que Greenwood avait surpris davantage, par exemple avec The Master, après le film précédent de Paul Thomas Anderson, parce que tout d'un coup, il avait fait quelque chose qui ne ressemblait pas vraiment à ce qu'il avait fait précédemment, alors que là, on est quand même dans une continuité, malgré tout.
Moi, j'aime bien quand un artiste de scène fait un pas vers le film, alors qu'il y a beaucoup d'artistes de scène qui, pour moi, ne fonctionnent pas à l'image, puisqu'ils sont tellement en dehors de l'image, qu'on se demande si c'est vraiment de la musique musique pour le film. Et là, je trouve que c'est réellement une musique pour le film.
Ça, c'est indéniable. On va continuer donc dans ce bilan de l'année avec un autre film que personnellement je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc là, c'est plutôt vous qui allez en parler. C'est le film de Spike Jonze, Her, où on retrouve d'ailleurs Scarlett Johansson, dont on a parlé pour Under the Skin. Et là, cette fois-ci, c'est une BO signée Arcade Fire, qui est assez connue, on va dire même très très connue dans le monde de la pop. Qui est-ce qui veut en dire un mot, Charles-Pierre, Benoît?
Je peux continuer sur Her, puisque on parlait de groupe de scène. Décidément, le bilan est assez logique là-dessus, puisque c'est le groupe de rock canadien Arcade Fire qui signe la BO. Et là, ils font aussi quelque chose de complètement différent de ce qu'ils faisaient dans leurs albums. Ils retrouvent d'ailleurs le cinéma après The Box de Richard Kelly, donc c'est pas nouveau pour eux le cinéma. Et là, ils font une BO complètement épurée pour ce film avec Scarlett Johansson, d'ailleurs, toujours.
Et Joaquin Phoenix, oui.
Et Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, dont on n'entend que la voix. Et ici, l'Arcade Fire signe une partition épurée au piano, très délicat. Et je trouve que ce choix d'épure est assez audacieux, aussi audacieux que de ne convoquer Scarlett Johansson que pour la voix. Ils font appel à un groupe de rock pour ce piano, et je trouve ça assez...
Oui, alors ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve quand même des passages dans la BO qui sont pas seulement au piano, qui sont vraiment plus proches de l'électro, enfin un peu plus ample, qui d'ailleurs ressemblent davantage à ce qu'ils font. Et par contre, moi, alors justement, là encore une fois avec Benoît, c'est peut-être là où j'ai un petit point de désaccord. Pourtant, j'ai adoré la BO aussi comme toi, hein, Benoît. Donc en fait, la chose, c'est que pour moi, c'est assez simple, voire presque un peu trop simple, en fait, ce que fait Arcade Fire. On est dans du Eric Satie, hein, pour des gymnopédies qui sont mal maîtrisées. Ça ressemble un peu à ça. Alors que par ailleurs, justement, ce que je trouvais intéressant, moi, c'était plus l'articulation de cette musique avec, dans ce film, où ce personnage sait pas trop exactement où il en est au point de vue des sentiments. Il est perdu avec cette Scarlett Johansson dont on a que la voix, qui est un ordinateur et qui lui cause et dont il tombe amoureux, justement. Donc c'est plus dans la relation entre ce que cette musique peut évoquer, et effectivement, là, du point de vue des sentiments, plutôt que dans la qualité musicale.
Tout à fait. Si ça s'agissait d'un album d'Arcade Fire, en effet, je dirais pareil, facilité, etc. Mais c'est vrai que pour le film, l'émotion est très prégnante en écoutant ce piano.
Musique.
Vous écoutez Cinéma Song sur France Musique. Justement, c'était un extrait de la bande originale de Her, un extrait assez satien, assez inspiré d'Eric Satie, donc Photograph par le groupe Arcade Fire, enfin en tout cas une partie du groupe pour ce morceau. On va passer à un film qui, en ce qui me concerne, m'a vraiment marqué cette année, que je considère vraiment comme un des meilleurs de l'année, mais je crois que je ne suis pas le seul autour de cette table. C'est le film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, avec Tilda Swinton notamment.
Et Tommy Dolestoy.
Voilà, absolument, et qui est un un film de vampire, on va dire, mais très particulier, qui se passe entre Détroit et Tanger. Et avec un personnage masculin qui est un amateur de musique absolument fou et qui lui-même est un guitariste, un collectionneur de guitares, quelqu'un qui fait de la musique mais d'une manière assez secrète. Et là, du coup, c'est un film à la fois formidable, dans une sorte d'éloge du dandysme, mais dans un sens très sophistiqué et très personnel, avec un travail musical passionnant, co-signé par un compositeur qui s'appelle Joseph Van Vissem, qui est plutôt inspiré, on va dire, par la musique médiévale, et puis le groupe de Jim Jarmus qui s'appelle Squirrel, et qui, Charles-Pierre, ça vous a plu aussi, je crois, ce film de Jim Jarmusch.
Oui, pour moi, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, Thierry, c'est la BO qu'on écoute chez soi. Moi, je l'écoute régulièrement, justement, dans ma voiture en particulier. Donc, c'est...
Vous habitez dans votre voiture, donc, si je comprends bien.
C'est un peu ça. Donc, en fait, non, c'est vraiment une BO qui est fantastique, parce que non seulement elle est indissociable du film, mais donc, il y a cette inventivité. Et on retrouve, en fait, ce que Jarmusch aime faire dans ses films. Ce qu'il avait fait pour Ghost Dog, avec la musique de RZA. Ce qu'il avait fait avec... Neil Young pour Deadman.
C'est un maître en matière d'utilisation de la musique, on est d'accord.
Ça, on est d'accord, mais ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve ça, son procédé qui consiste à s'approprier pour un personnage justement cette musique. C'est-à-dire que justement, au départ, on a l'impression que c'est juste un prétexte, et en fait, non, cette musique représente l'univers du personnage. Et on le comprend petit à petit, et il s'en imprègne complètement. C'est en plus de ça, bon, il faut dire que ce film de vampire est un hymne complet à la musique. C'est ça qui est prodigieux, un hymne à la musique, mais toutes les musiques. Les musiques à la fois de films, mais également la musique classique, la musique pop, la musique rock, les musiques folk, toutes les musiques du monde. Il y a beaucoup de passages, justement, on entend du luth, il y a des références à la musique orientale.
On commence d'ailleurs à entendre la musique sous votre voix.
C'est vraiment magnifique pour ça. C'est un hymne à la musique. Et d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs dans le film un extrait, un passage très très beau avec la chanteuse Yasmine Hamdan,
Libanaise,
qui est vraiment
très beau
bouleversant.
Benoît,
super film et super musique avec Jim Jarmusch. On se demande si c'est un cinéaste qui participe à la musique de son film ou si c'est un musicien qui fait un film, puisque lui-même a participé aux albums des artistes qui font la BO. Et Jim Jarmusch aime tellement la musique qu'il tourne avec Tom Waits et Iggy Pop, ses amis de scène. Donc voilà, c'est un musicien cinéaste qu'on adore.
De la bande originale de Only Lovers Left Alive, co-signée par Joseph Van Vissen et le groupe Skull, le groupe de Jim Jarmusch, et c'est un extrait qui porte bien son nom, A Taste of Blood, donc un goût de sang, puisque il s'agit d'un film de vampire. Alors, on fait non pas une pause, mais disons une incise dans ce bilan de l'année, mais on reste dans le sujet, avec Benoît Basirico, puisque vous êtes animateur, je le rappelle, du site Cinésique, et vous vouliez nous justement faire un petit bilan box-office, clic et autres joyeusetés, si je puis dire.
Alors, compléter ce bilan, puisque en fait, tout d'abord, Cinésique francemusique.fr vient de révéler également son bilan 2014 avec les rédacteurs du site qui ont donné leur classement. Numéro 1, Maléfique de James Newton Howard.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. Numéro 2, Interstellar d'Hans Zimmer. On va aussi en parler.
On va en parler dans pas longtemps.
Numéro 3, La voleuse de livres de John Williams.
On en parlera aussi, je pense.
Voilà. Et numéro 4, The Grand Budapest Hotel d'Alexandre Desplat. On va peut-être aussi en parler. Du coup, le classement intégral est sur cinésique.fr.
Ça annonce le suite du sommaire de l'émission quasiment.
Voilà. Comme quoi, il y a une logique entre le site et l'émission. Ensuite, le box-office. Il s'agit donc d'additionner le box-office des films et remarquer quels sont les compositeurs qui ont été le plus entendus par les spectateurs de cinéma cette année. Indéniablement, Marc Choirin est numéro 1 avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 12 millions d'entrées. Mais ce qui est assez amusant à mentionner sur Marc Choirin, c'est qu'il est à la fois le compositeur du film qui a fait le plus d'entrées et à la fois le compositeur d'un petit film qui a fait 100 000 entrées, Respire de Mélanie Laurent, l'éclectisme des compositeurs. John Powell en numéro 2. Hans Zimmer en numéro 3, Klaus Badelt en numéro 4, et a mentionné Éric Neveu qui figure dans le top 10 du box-office avec 7 films à son actif.
Ah, c'est un des gros contributeurs de l'année, il viendra sûrement dans Cinésic d'ailleurs en 2015 pour parler de ça et d'autres choses.
Sur France Musique, c'est ça, oui.
Absolument.
Et donc, également...
Non, sur Cimaçon, pas sur Cinésic, oui. Effectivement.
Et a mentionné également, pour terminer sur ces chiffres, les BO qui ont été le plus consultés sur Cinésic, et il y a deux tendances. Tout d'abord, des films dans lequel on danse, figure Mommy, Sexy Dance 5, Les Gazelles, musique d'Éric Neveu dans lesquelles il y a des séquences de danse dans les appartements, Mes chers voisins, où il y a justement les voisins qui font beaucoup de bruit chez eux, il y a La crème de la crème de Kim Chapiron, où c'est des étudiants qui s'amusent en fait, Party Girl, et Saint Laurent de Bonello, où également il y a des séquences de danse.
Deux très bons films d'ailleurs, Party Girl et Saint Laurent notamment.
Donc c'est une grosse tendance. Et autre tendance, donc musique électronique, ça marche beaucoup au niveau des clics, Les combattants Hit and Run, Bande de filles par qui sont également des musiques électroniques.
Alors, deux musiques très différentes qu'on a enchaînées. À l'instant, la musique de Maléfique signée James Newton Howard, un extrait en tout cas, et puis un court extrait de la musique de Hans Zimmer pour Interstellar, mais il y a beaucoup de musique dans le film et beaucoup de musique dans le CD qui est paru chez Sony Classical. Un petit mot rapide, parce qu'on n'est pas en avance. Je ne sais pas qui veut commencer, sur quel... Benoît, sur Maléfique peut-être.
Je vais peut-être mêler les deux dans la même, même remarque.
Allez-y, mêlez.
Alors Hans Zimmer, avec Christopher Nolan, j'aimais pas vraiment, même pas du tout ce qu'il faisait auparavant. Inception, les Batman. J'aimais pas cette manière justement de supprimer les thèmes.
C'est Hans Zimmer est l'objet de toujours un débat entre les amateurs de musique au cinéma de toute façon.
C'est ça. Et cette manière d'abolir les thèmes et en plus d'avoir fait école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compositeurs à Hollywood qui ont après imité le style Zimmer sur les Batman. Eh bien, apparemment, Hans Zimmer lui-même en a eu marre. Il a voulu, avec ce Interstellar, en finir avec la trilogie des Batman. Et il a voulu renouveler son style. Il s'est d'abord impliqué très tôt sur le projet avec Christopher Nolan. En fait, c'est une page où il y a eu une petite fable écrite par Christopher Nolan qui a inspiré Zimmer pour cette musique. Et il y a un vrai renouveau, absence de percussion, ce qui faisait sa marque jusque-là. Et donc,
beaucoup d'orgue.
Et beaucoup d'orgue pour quelque chose d'assez orge, voilà, comme ça, quelque chose de grandiose et sentencieux. Pour Maléfique, en revanche, il y a JNH, James Newton Howard, qui avait collaboré sur les Batman avec Hans Zimmer. Lui, il retrouve les thèmes. C'est le grand retour à la partition symphonique à Hollywood. C'est un premier film assez à signaler. C'est un conte, on va dire, comme peuvent les faire les films de Walt Disney. Maléfique, donc. Et pour moi, ce retour au thème, cette manière par les thèmes de faire exister des personnages et l'ambivalence du personnage, c'est-à-dire que dans un même thème, il y a à la fois le côté joyeux et le côté grave des personnages. Voilà, très intéressant.
Je partage l'avis de Benoît. Enfin, en ce qui concerne James Newton Howard, c'est vrai que Maléfique c'était une très très belle BO orchestrale. La seule chose c'est qu'il y avait moins de piano, alors que d'habitude James Newton Howard, JNH, donc on emploie souvent. Et sinon, moi par contre concernant JNH, j'ai préféré sa bande originale qui était teintée beaucoup plus d'électro pour Nightcrawler qui est sorti récemment. Et en ce qui concerne donc Hans Zimmer, alors là effectivement oui, c'est à chaque fois pour bien des BOphiles. À la fois haine et amour. Et là, c'est vrai que moi, j'ai retrouvé plaisir à écouter Hans Zimmer. Ça faisait bien longtemps.
Depuis Rush, l'année dernière, voilà, ouais, c'était pas il y a si longtemps.
C'était pas il y a si longtemps, mais c'était quand même pas, à mon avis, du niveau de la BO d'Interstellar, qui est vraiment fabuleuse. Parce que, alors, il y a des reprises. Des fois, on a l'impression d'entendre du Wagner. Des fois, on a l'impression d'entendre aussi du Ravel. C'est vraiment une très très belle bande originale, très emphatique, mais en même temps avec beaucoup de références, et notamment à 2000 ans lycée de l'espace avec l'orgue. Alors l'orgue, a priori, ce serait Christopher Nolan qui aurait demandé ça à Hans Zimmer. Donc Hans Zimmer l'a utilisé et on a des références à Alzo Sprach, Zarathustra, 2000 ans d'Odyssée de l'espace et surtout un jeu très intéressant entre le vide de l'espace et les utilisations musicales où parfois donc il se prive pas de couper la musique tout simplement. C'est ça qui est tout particulièrement bien fait.
Écoutons Warcher maintenant. Thank you.
écoutez toujours Cinéma Song en compagnie ce soir de Charles-Pierre Vallière et Benoît Basirico, notamment pour un bilan de l'année. À l'instant, c'était The Grand Budapest Hotel, le thème principal du Grand Budapest Hotel, le film de Wes Anderson avec la musique d'Alexandre Desplat. Puis auparavant, Maps to the Stars, un extrait donc là aussi d'une musique signée Howard Shore. Alors de Howard Shore et Alexandre Desplat, c'est un peu des musiciens, on va dire, qui sont souvent très présents dans les bilans de l'année. Je vais peut-être dire un mot d'abord de la musique du Grand Budapest Hotel. On peut dire beaucoup de choses sur Alexandre Desplat, dont on connaît la carrière aux États-Unis et qui va dans des directions parfois assez variées. Mais je trouve qu'avec Grand Budapest Hotel, qui n'est d'ailleurs pas mon film préféré de Wes Anderson, même si j'aime beaucoup Wes Anderson en général, il a trouvé un thème, une couleur avec le cymbalum, l'utilisation du cymbalum, un thème un peu Europe centrale qui rappelle aussi qu'il a des origines grecques, qui est extrêmement réussi et qui marche à la fois avec le film et également sans le film, parce que je trouve que c'est un thème qui colle un peu à l'oreille, ce qui n'est pas toujours le cas des musiques de films, et c'est voilà, quelque chose de très positif. Pour moi, je ne sais pas si l'un ou l'autre avait quelque chose à dire sur... Alors, Howard Shore également, puisqu'il faut parler de ce compositeur qui a également signé la BO de The Hobbit, qui est en salle en ce moment.
Absolument, mais juste pour Desplat, c'est vrai qu'on retrouve ça... qualité d'orchestrateur et sa capacité à s'adapter à n'importe quel film. Ça...
Mais pas seulement, je trouve qu'il y a un vrai thème ce qui n'est pas le cas dans toutes les musiques de films qu'on a pu écouter cette année.
Et concernant effectivement Howard Shore, alors lui, bon, bah, c'est vrai que c'est une musique, là la partie qu'on entend est très, très rythmée, même si sur l'ensemble de la BO, moi justement pour l'avoir écouté, juste en CD, on a beaucoup plus le sentiment d'une bande originale qui est très, très ambiance, atmosphère, assez arythmique, assez suspensive, qui est très agréable à entendre, et on a sentiment de retrouver un Howard Shore des années 80.
Disons qu'on s'en rapproche un peu plus que sur certains autres films, Benoît.
Sur Alexandre Desplat, il a fait 4 BO cette année, The Grand Budapest Hotel, dont on vient d'entendre la musique, Monuments Men de George Clooney et Philomena de Stephen Frears.
Il joue dans Monuments Men également un rôle.
Exactement. Et la quatrième, et celle que je préfère moi de Desplat cette année, c'est Godzilla. Godzilla qui est pour moi un renouveau du film de monstre et qui, par rapport à la franchise de Roland Emmerich, n'a rien à voir. Ces cuivres effrénés, le thème martial, je trouve que justement Alexandre Desplat a su très bien illustrer le monstre, assez sombre d'ailleurs et crépusculaire, réalisé par ce réalisateur anglais Gareth Edwards, dont on avait adoré Monsters, son premier film.
C'est un homonyme d'un joueur de rugby fameux du Pays de Galles, c'est une autre histoire ça, dans les années 80.
Voilà pour Godzilla. Et pour Howard Shore, qui est une des BO de l'année que j'adore aussi, Maps to the Stars, il y a des instants de jazz.
C'était votre choix d'ailleurs dans cette émission.
Oui, un des choix, oui, tout à fait. Instant jazz, street dance, tout le Howard Shore en une musique que j'adore. Et puis, je trouve que c'est un peu le Mulholland Drive de Cronenberg. Et je trouve un peu de Badalamenti.
Toute proportion gardée, si je puis me permettre. Mais enfin, bon, on n'a pas le temps de débattre.
Voilà. Lequel est le meilleur, je ne ferai pas de comparaison. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un peu de Badalamenti chez Howard Shore dans cette musique. Cette manière, justement, d'insuffler à la fois l'ambiance et à la fois le côté ludique dans ce film qui est à la fois comique et grave.
J'aurais rajouté un peu de Brian Eno avec... Thank you.
un peu de musique orchestrale. On arrive bientôt vers la fin de cette émission avec à l'instant un extrait de la BO de La Chambre Bleue, le film de Mathieu Amalric, signé Grégoire Hetzel, qui a été un compositeur qui a beaucoup œuvré cette année. Il a fait au moins 4 films, je crois. Et puis auparavant, la bande originale, enfin un extrait, le générique de fin de La Belle et la Bête, le film de Christophe Gans, avec la très belle valse signée Pierre Adnaud. Alors là, du coup, ce sont mes choix personnels qui sont des choix liés à la tradition française un peu impressionniste qui mérite d'être célébrée dans CinémaSong, parce que ce sont peut-être pas les musiques les plus qu'on entend le plus, mais voilà, le raffinement orchestral et thématique, l'inspiration un peu ravelienne de Grégoire Hetzel, et puis la valse très élégante de Pierre Adnaud me semble-t-il mériter de figurer dans ce bilan de l'année. Alors je vous laisse peut-être la parole à l'un et à l'autre pour boucler cette émission sur des choix qui vous sont personnels là aussi.
Sur Grégoire Hetzel par exemple, c'est vrai que j'aime beaucoup La Chambre Bleue. Alors bon, implicitement je mets qu'une BO d'un compositeur, ce qui est peut-être un peu idiot, mais en tout cas j'aime beaucoup La Chambre Bleue de Grégoire Hetzel, mais aussi ce qu'il a fait pour Emmanuel Mouret cette année, ou également pour Pierre Salvadori dans La Cour, et surtout La Prochaine Fois Je Viserai le Cœur, c'est celle-ci que dont je me souviens le plus.
En fait, Cédric Angers, c'est le film le plus récent, donc
voilà, peut-être c'est parce qu'il est récent. Et Guillaume Canet en Serial Killer, cette musique funéraire comme ça qui l'accompagne, j'aime beaucoup. Pour Grégoire Hetzel.
Alors là, on entend une musique d'un film une musique que vous avez choisie, Benoît, c'est la musique de White God, donc un film hongrois.
Alors White God.
Asher Goldschmidt, la musique.
Voilà. Donc c'est un film hongrois. Delta, un de ses premiers films, était à Cannes en compétition. On entend ces cordes majestueuses qui soutiennent la tension dramatique et horrifique du film. Alors, ce que j'ai à mentionner sur ce film-là, c'est le mélange des genres. On commence comme un drame, la cellule familiale s'éclate, le père abandonne le chien de sa fille cherche le chien. Là, on est comme dans un thriller, puisque en fait, le chien a peur de la cruauté des hommes. Dernière partie du film, le chien rejoint d'autres chiens, une bande de chiens errants, et ils formentent ensemble une révolte contre les hommes, et on est chez Romero, film de zombies, où c'est l'attaque des chiens. Ce mélange des genres, au début on pense à Walt Disney, et on finit dans un drame horrifique, et la musique justement soutient cela avec ce thème orchestral magnifique, signé donc Asher Goldschmidt, que je remercie puisque c'est lui qui m'a envoyé cette musique.
Alors ça, c'était un extrait donc de la bande originale de White God, dont le titre d'ailleurs fait aussi référence à White Dog, le film de Samuel Fuller de 1982, où la musique était signée Ennio Morricone. Et pour terminer, alors bon, parmi les choix que vous aviez fait, Charles-Pierre, il y avait le choix d'un film de Peter Greenaway, Goldsus, avec une musique de Marco Rubino.
Oui,
on
absolument.
Va entendre un peu pendant que vous parlez.
Et alors, pour moi, c'est vraiment une très très belle musique, parce que justement, pour ce film de Peter Greenaway, qui est quand même assez spécial, hein, mais qui est très plastique, il y a une lenteur dans la narration, hein, comme beaucoup de films de Peter Greenaway. Ouais, avec des thèmes forts donc comme la violence, la mort, le sexe et la culture, ce que l'on retrouve donc aussi chez Greenaway la plupart du temps. Et là, Marco Rubino a fait
la vie, quoi.
Voilà. Et donc pour Marco Rubino, eh bien, il a composé une musique qui est à la fois renaissance et en même temps très contemporaine. Donc elle est très répétitive parfois. C'est assez intéressant justement ce caractère répétitif, parce que c'est aussi ce que Greenaway aime tout particulièrement dans la musique qu'il utilise. C'est un fan des musiques minimalistes des années 60. Donc c'est souvent ce qu'il demande à ses compositeurs, et c'est ce qu'on retrouve dans cette BO, qui est vraiment ce mélange comme ça de deux univers, de deux époques, et c'est vraiment très bien fait.
Thank you.
un extrait de la musique de Golsius, le film de Peter Greenaway, donc une musique signée Marco Robino. L'émission s'achève, on n'a pas le temps, il y aurait pu avoir d'autres BO. Vous vouliez parler par exemple de la BO de John Williams, la voleuse de livres, Benoît, mais bon, on n'a pas le temps. Donc on va désannoncer, comme on dit, le générique de cette émission, puisque l'émission a été préparée par Dorothée Goll. J'étais entouré par une très sympathique équipe, Antoine Giraud, Philippe Sourdon, Ariane Herbé, Charles Barjou et Julien Calvas qui étaient aux manettes, ainsi que l'excellent Bruno Rioux-Maillard qui réalisait comme chaque semaine cette émission.